vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Irung à la présentation.
Bonsoir. Présentation hier par le ministre du Plan du gouvernement central du document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté de deuxième génération, DCRP2 en sigle. Ce document vise notamment à réduire la pauvreté de 60% et à créer au moins 1 million d'emplois décents par an d'ici 2015. Quelle analyse faire des objectifs du DCRP2? Nos invités dans cette émission sont Olivier Kamita Touetchou, ministre du Plan du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Médard Moulanga Lalouakabouanga, député national de l'opposition et rapporteur de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Il est président de l'Union pour la majorité républicaine, UMR, en sigle. Honorable Moulanga, bonsoir.
Bonsoir Radio Okapi.
Georges Chunzamata, économiste, également coordonnateur technique du cadre de concertation de la société civile pour le dialogue sur les politiques. Monsieur Chunzamata, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, comme d'habitude, sont déjà très nombreuses à nous parvenir. Jean-Marc Véco de Guémena, à l'Équateur, dit « Il y a beaucoup de bonnes intentions pour réduire la pauvreté en RDC. Malheureusement, toutes sont restées sur papier. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, cette intention est réellement la bonne et ne sera pas un mort-né ?» Narcisse Mbunza Malokwa de Suède, ma question est celle-ci. Le PNUD vient de publier l'index du développement humain 2011 et la RDC occupe la dernière place sur cette liste. Par quel mécanisme, par quelle innovation les autorités congolaises pourront-elles réduire la pauvreté de 60% d'ici 2015? Personnellement, toutes ces projections me paraissent utopiques. Je souhaiterais avoir des explications du ministre du Plan. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Je le disais dans le sommaire, le ministre du Plan du gouvernement central a présenté ce mercredi à la presse quinoise et internationale le document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté de deuxième génération, DCRP2 en sigle. Selon le ministre Olivier Kamita, tout ce document adopté par le gouvernement le 30 octobre dernier préconise de faire de la RDC un pays à revenus intermédiaires et émergents. Plus de détails avec vous, Agathe Mpona.
Pour arriver à cette vision, le DCRP2 contient des objectifs dans le secteur de la pauvreté, de l'emploi, de la croissance, de la stabilisation, de l'éducation du genre et de la santé, pour ne citer que ces secteurs. Pour illustration, le DCRP2 vise de ramener d'ici 2015 l'incidence de la pauvreté à 60% et de créer au moins 1 million d'emplois décents par an à cet horizon. Selon Olivier Kamitatou, la réalisation du DCRP de première génération a permis des avancées dans le secteur de l'éducation, où le taux de fréquentation scolaire est passé de 51% en 2007 à 75% en 2010, dans le secteur de la santé, où le taux de mortalité infantile est passé de 126 à 104 pour 1000 naissances. L'accès à l'eau, quant à lui, est passé de 22% en 2005 à 26% en 2010. Des avancées certes, mais des avancées bien faibles, a-t-il reconnu. Notons que ce document est un cadre de référence pour les programmes de développement économique des gouvernements centraux, provinciaux et les partenaires au développement.
Merci. Agathe Mpona, Monsieur le ministre Olivier Kamitatou, nous abordons la question du DCRP2 dans quelques instants, mais il y a plusieurs auditeurs qui nous ont écrit et qui souhaiteraient avoir une idée du bilan du DCRP1. Je vous propose d'écouter l'un d'eux.
Matumaini Franklin de Bukavu au Sud Kivu. Je ne sais pas si après l'évaluation du DCRP1, le ministère du Plan peut vraiment dire aux Congolais ce qu'a été l'exécution de ces derniers, étant donné que dans presque tous les secteurs visés par le DCRP1, c'est le statu quo qui demeure. N'est-ce pas là un document de trop? Le ministère du Plan ne tombe pas dans l'erreur d'aller d'étude en étude ou de DCRP en DCRP sans que ces derniers puissent avoir un impact sur les équipes des Congolais.
Réaction, Monsieur le ministre, un mot sur le bilan du DCRP1.
Bien, la première chose, c'est que ce DCRP1 a été jugé dans sa mise en œuvre satisfaisant. Non pas par le gouvernement, ce serait de l'autosatisfaction inutile, mais il était jugé satisfaisant dans sa mise en œuvre par les partenaires.
Théoriquement ou concrètement sur terrain?
Concrètement sur terrain, ce DCRP1, dans sa mise en œuvre et dans son analyse, a permis d'atteindre le point d'achèvement. de l'initiative PPTE. C'était le tout premier déclencheur que les institutions de Bretton Woods avaient décrété. Une mise en œuvre satisfaisante, ça veut dire que le cadre de stabilité macroéconomique s'est maintenu. Les performances enregistrées ont été saluées par l'ensemble des partenaires, mais ça veut dire également qu'il y a des efforts qui ont été réalisés et qui doivent se poursuivre, notamment dans le domaine du social, l'éducation, la santé. Il est évident également qu'en ce qui concerne le vécu quotidien, parce que c'est ça que notre ami Franklin de Bukavu évalue, ce n'est pas le document du gouvernement. Certes, le gouvernement a la maîtrise de ce document, a pris l'initiative qu'il y a un deuxième DCRP, mais c'est un cadre de référence des interventions non seulement du gouvernement central, des gouvernements provinciaux, mais également des partenaires au développement. C'est un document qui était élaboré avec l'appui notamment du secteur privé, de la société civile à travers les groupes thématiques. Donc c'est un document qui était nécessaire pour que nous puissions continuer non seulement ce qui était accompli les 5 premières années et qui peut porter parfois sur certaines critiques, mais poursuivre et accélérer cet effort pour effectivement continuer à intervenir là où la population exige des résultats. Donc nous avons voulu ce deuxième DCRP parce qu'il est important qu'on maintienne l'élan et qu'on accélère le pas vers la transformation de la société congolaise.
Monsieur le ministre, par rapport au le DCRP 2, vous l'avez dit, a comme ambition, entre autres, de créer 1 million d'emplois par an, mais par rapport au DCRP 1, combien d'emplois ont été créés? Qu'en est-il de l'accès de la population à la santé, à l'eau et à l'éducation, par exemple, concrètement?
Eh bien, concrètement, s'il fallait parler de l'éducation, on l'a évoqué ici, le taux de fréquentation à l'école primaire, la gratuité scolaire qui était décrétée à l'initiative du chef de l'État a permis de récupérer pratiquement 1 million d'enfants supplémentaires.
Mais qui étudie dans quelles conditions, monsieur le ministre? 100 élèves par classe, par exemple.
De nombreuses écoles ont été construites, il faut aller beaucoup plus vite. La volonté du gouvernement est que dans les 5 prochaines années, cette gratuité scolaire non seulement s'étende aux 6 années du cycle primaire, mais que nous ayons effectivement un taux d'achèvement à l'école qui soit extrêmement important. En ce qui concerne la parité, ça aussi c'est important à l'école primaire et à l'école secondaire. Il faut qu'il y ait la parité entre les filles et les garçons. On constate qu'il y a encore de grandes disparités. Le gouvernement a décidé de s'investir totalement dans l'éducation. Et pas seulement l'éducation de base, également l'éducation technique professionnelle, le passage vers l'emploi. Et là, effectivement, vous me posez la question de savoir le DCRP 1. N'oublions pas qu'il était élaboré dans des situations d'urgence à partir de 2003-2004. Le pays a profondément changé. Nous ne sommes plus maintenant dans un DSRP pour résoudre des situations d'urgence. Le DSRP 2, c'est pour aller dans un développement durable, donner les vrais axes prioritaires vers lesquels nous voulons investir. Et cet axe prioritaire, c'est précisément l'emploi. Nous avons chaque année 600 000 jeunes gens qui entrent sur le marché de l'emploi, qui quittent l'école, qui quittent les instituts supérieurs ou l'université. Nous devons créer l'emploi, nous devons à la fois créer les conditions d'une croissance économique parce que nous considérons toujours que le lien entre croissance, réduction de la pauvreté et maintenant le nouveau lien entre croissance, emploi et réduction de la pauvreté est un lien extrêmement fort. Le pays a changé, le DCRP a changé également dans la nature des piliers que nous voulons aborder dans ce deuxième DCRP.
Nous avons quitté le DCRP d'urgence, dites-vous, monsieur le ministre, mais plusieurs réactions que nous avons reçues, par ces réactions, on comprend que la population semble ne pas avoir palpé du doigt l'exécution de ce DCRP. Ne va-t-on pas dire finalement que c'est un document confectionné, excusez-moi, entre guillemets, pour plaire aux bailleurs étrangers?
Non, absolument pas, parce que c'est un document de souveraineté. Et une des lacunes que nous avons constatées dans le premier DCRP, parce qu'il faut être critique vis-à-vis du travail également, c'est qu'il n'y avait pas de lien entre la vision, qui était une vision généreuse, une vision de progrès, il n'y avait pas ce lien entre la vision et le budget. Et je suis content que l'honorable Moulangala soit là, parce qu'il est de la responsabilité non pas du seul gouvernement de la mise en œuvre d'un DCRP, mais de toutes les institutions, et ce lien n'a pas existé pendant ce premier DCRP. Une très belle vision, non assortie de tous les moyens. Certes, les partenaires au développement ont continué à dépenser près d'1 milliard de dollars par an, et leur cadre de référence est resté le DCRP, et il restera le DCRP 2, mais maintenant nous avons décidé, et ça c'est une grande transformation dans le DCRP 2, eh bien d'avoir de nouveaux instruments programmatiques de budgétisation. Nous avons adopté des cadres de dépenses à moyen terme, des stratégies sectorielles pour chaque ministère qui ont été largement peaufinées, et nous avons maintenant un plan annuel minimal Ça veut dire que nous avons défini les priorités, des priorités qui doivent être reflétées maintenant dans le budget que les représentants de la nation auront à adopter chaque année pour aller, et ça c'est une autre nouveauté, vers une gestion axée sur des résultats. Si nous disons 1 million d'emplois par an, il faut aller chercher ces emplois dans le secteur public, dans le secteur privé. Si nous disons que nous voulons la gratuité scolaire, il faut donner les moyens à la gratuité scolaire. Si nous disons qu'on veut diversifier l'économie vers l'agriculture, il faut donner les moyens aux paysans, effectivement, d'entrer pleinement dans l'économie nationale.
Honorable Médar Moulangala, un mot sur le bilan du DCRP1 que le ministre a jugé positif.
Je crois que vous avez suivi les réactions des auditeurs et dans leurs commentaires, pour la plupart, beaucoup s'interrogeaient pour savoir si nous étions en fait dans le même pays. Même l'un d'entre eux a pu signaler qu'on parle de progrès. Les indices publiés par les organismes respectés et reconnus montrent très bien que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Donc il y a là quelque part un décalage terrible entre les programmes, les ambitions affichées par le gouvernement sortant et la réalité sur terrain. Moi, je voulais peut-être aussi m'interroger sur l'opportunité de cette présentation à ce moment précis. Il est vrai que l'État doit continuer à fonctionner, il est vrai que l'État ne doit pas s'arrêter, mais si on doit agir de cette manière-là, il faut que nous soyons constants et que nous soyons aussi, logiques dans notre comportement. On ne peut pas d'une part dire que l'État doit fonctionner, on présente le programme coûte que coûte, et d'autre part, la présentation du budget de l'État n'est pas faite. Donc, il y a là quelque part un problème de cohérence. Et je m'interroge, moi, tout haut, pour savoir pour quelles raisons aujourd'hui on doit présenter ce programme. Et ce programme, je l'ai lu en diagonale, nous annonce des emplois par cascade, des progrès remarquables, des budgets triannuels. Écoutez, la réalité que nous vivons au quotidien, ce n'est pas cela. Je crois que jusqu'à présent, le premier DSRP, à moins que je n'ai été distrait, a convaincu peu de Congolais. Les données que nous avons de la part des partenaires, qui, comme vous le savez, financent ce DSRP, indiquent que nous ne sommes pas dans la bonne voie. Donc à partir de là, il y a, à mon avis, une difficulté majeure pour moi à comprendre l'opportunité de tel programme à ce moment-ci.
En parlant d'opportunité, si je vous comprends, vous évitez de dire que c'est un programme électoraliste.
Mais voilà, vous l'avez dit. C'est mon impression à ce stade. Parce que venir nous annoncer à 15 jours des élections des politiques mirobolantes, des promesses d'emploi, des créations de sociétés d'investissement, mais on se moque de qui? La question est la suivante. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu plus d'investissements dans ce pays? Les raisons sont connues, elles sont claires. La mauvaise gouvernance. Et à ce niveau-là, tous les rapports crédibles indiquent que peu de progrès a été fait. Mauvaise gouvernance, notamment par la lenteur dans le changement du bilan du climat des affaires. Donc, quand on voit toutes ces conditions préalables qui ne sont pas remplies à ce stade, moi, je ne vois pas comment on pourrait, avec les mêmes hommes et les mêmes idées, arriver à impulser à ce pays une nouvelle dynamique. Ce n'est pas possible. En fait, quand on parle ici de DSRP2, je dirais qu'en fait, on parle du testament du gouvernement Mouzito, parce que le bilan qu'il a donné ne nous a pas convaincus. Et là, il fait un testament pour nous dire quelle voie à suivre pour le futur. Le gouvernement sortant n'a pas convaincu en cette matière. Je dirais simplement que, à l'avenir, si les Congolais nous suivent dans nos choix, nous pourrons effectivement créer les conditions d'une bonne exécution de ce contrat. Je vais terminer par un petit point, mais on parle ici de la participation des bailleurs de fonds. Mais l'exécution du budget 2010 se montre qu'ils n'ont pas contribué au montant qui avait été prévu. Et qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que demain ils vont changer? Donc je crois que si nous devons mettre ensemble les moyens de nous donner cette nouvelle vision de changer le pays, d'apporter l'espoir, de créer l'emploi, il faut mettre fin à un régime qu'il faut le dire a failli.
Vous indexez le gouvernement sur la mauvaise gouvernance, mais vous ne parlez pas de l'Assemblée nationale qui a failli dans sa mission de contrôle.
Bonne question. L'Assemblée nationale, comment est-elle constituée? Il y a une majorité absolue dirigée par un groupe. Donc, dans cette Assemblée-là, il était en facile politiquement de faire passer toutes les lois qui devaient contribuer aux réformes de l'État. faire passer tous les textes qui devaient aider à mettre en action l'action du gouvernement. On ne voit pas cela. Le gouvernement est le prolongement de l'Assemblée nationale. Donc, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que cette majorité qui a failli à l'Assemblée, tout le monde le sait, nous, de l'opposition, ne devrions porter la charge. Jamais. Il faut dire qu'aujourd'hui, un groupe a dirigé le pays de la base au sommet et il doit porter seul la responsabilité de l'échec que nous subissons tous.
Avant de donner la parole à Georges Tounzamata, le ministre Olivier Kamitato a parlé de la gratuité de l'enseignement. Ne faudrait-il pas saluer ce genre d'initiative de la part du gouvernement?
Écoutez, mais tout ce qui permet aux Congolais de mieux vivre, on doit le saluer. Mais ces actes sont trop peu nombreux, trop isolés, trop localisés géographiquement. Il y a un problème de cohérence, il l'a dit lui-même ici. Le problème, c'est que le DSRP, la politique du gouvernement, n'est pas traduite dans le budget ou bien n'est pas exécutée. À partir de là, ce manque de cohérence nous amène à dire que, c'est comme vous l'avez dit vous-même, il y a là peut-être une volonté de faire des documents pour remplir des cases de conditionnalité et plaire aux partenaires. Mais dans le terrain, il n'y a rien.
Georges Tounzamata, quelle est votre analyse à ce niveau?
Bien, j'aimerais d'abord rassurer à la fois le côté gouvernemental et l'opposition que le DSRP ne doit pas être un document pour la consommation extérieure.
Le DSRP, malheureusement, c'est l'impression d'après certains
analystes. Justement, pourquoi il y a cette impression? De un, du côté du gouvernement, c'est parce que le gouvernement ne fait pas assez de pédagogie sur le DSRP.
Il ne communique pas suffisamment.
Deuxièmement, le gouvernement, dans la mise en œuvre du DSRP ou de ses politiques, nous avons décrié ça plusieurs fois, on n'a pas vu le gouvernement intégrer dans le budget de l'État, dans les lois budgétaires, les préoccupations du DSRP. Or, les citoyennes et citoyens de ces pays ont contribué largement à l'élaboration du DSRP. C'est là que j'ai porté une petite contradiction à l'honorable député pour dire qu'effectivement, le DSRP, c'est pas un document du gouvernement, c'est un document de la nation parce que la société civile a également participé à cela. Mais le gouvernement n'a pas fait cas du DSRP dans l'élaboration de ces politiques, notamment du budget, parce que le budget, c'est la traduction chiffrée de la volonté politique d'aller vers des objectifs qui touchent directement le vécu quotidien des citoyennes et citoyens. Ça, on ne l'a pas senti. C'est pour ça que, c'est vrai, nous avons, si on regarde bien le cadre macroéconomique, il a été stabilisé, c'est tout à fait vrai. Nous avons une inflation qui est maîtrisée. Nous avons la monnaie qui est stabilisée. Tout ça, on a vu, donc le franc congolais n'est plus dans la situation où il flottait d'une manière pratiquement insolente et déstabilisante pour les ménages. Donc aujourd'hui, ça sont les éléments du cadre macroéconomique qui sont quand même stables. Mais l'élément très important du cadre de la stabilisation du cadre macroéconomique, c'est la création des emplois. Et donc, c'est ça la véritable création de la richesse. S'il n'y a pas des emplois créés par rapport à cela, pourquoi on n'y est pas arrivé? Parce que les politiques ne sont pas allées vers les attentes en termes de création de richesses. Et nous sommes encore, comme l'a dit notre compatriote qui est en Suède aujourd'hui, qui a relevé les données de l'indice du développement humain qui a été publié aujourd'hui, qui démontre que nous sommes dans une situation stationnaire, donc on n'a pas évolué par rapport à la réduction de la pauvreté. Mais il faut quand même dire que la responsabilité du budget n'est pas seulement de la part du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement doit mettre en œuvre, mais l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, parce que nous ne voyons pas seulement le gouvernement central, même dans les provinces où les assemblées ont été aussi, où les gouvernements étaient sous contrôle de l'opposition, on a vu le même comportement qu'au niveau central. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a un grand déficit de contrôle, disons, de la fonction contrôle par l'assemblée ou l'assemblée des élus, tant au niveau central qu'au niveau provincial, en ce qui concerne la gestion des ressources de l'État par l'exécutif. par les exécutifs, parce qu'il y a les exécutifs au niveau provincial également. Donc tout cela montre que effectivement les attentes de la population par rapport au DCRP. Et je vous dis, la population s'est mobilisée pour les DCRP. Parce que cette fois-là, ils ont dit, bon, maintenant on nous consulte pour dire quelque chose sur nos problèmes, nos besoins. Mais au niveau de la mise en œuvre, et à la fois au niveau du contrôle, il y a eu un déficit terrible. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les résultats qu'on peut avoir sur le cadrage macroéconomique, mais ne se sont pas fait ressentir au niveau de ce que la population attend. C'est quoi? C'est les aspects tels que la consommation des ménages. C'est les aspects tels que la création ou l'épargne des ménages. Donc, si on consomme aujourd'hui 60% des besoins des ménages, 62,3% des consommations des ménages vont vers l'alimentation, ça veut dire qu'il y a un déficit énorme au niveau des revenus du ménage.
Georges Tundamat, avant de donner la parole au ministre Olivier Kamitatou, très brièvement, quel est l'autre mérite du DCRP à part le simple fait d'exister?
Non, ce n'est pas un simple fait d'exister. Le DCRP, c'est un document de référence en ce qui concerne les politiques dans lequel le gouvernement ou un pays veut s'engager pour se réformer. Parce que pour obtenir, comme le ministre l'a dit, le point d'achèvement, un des déclencheurs, c'est effectivement le fait que un DCRP a été élaboré pour montrer les voies vers lesquelles cet État-là pour se réformer afin d'être performant. Et donc, c'est un document extrêmement important. À l'absence d'une planification nationale, parce qu'il faut disposer d'un plan national, un plan de développement, qui montre la direction dans laquelle le gouvernement, plutôt le pays, va. Mais en l'absence de cela, comme on n'a pas un plan de développement national, il y a un document de stratégie pour montrer effectivement quelles réformes vous comptez engager pour pouvoir améliorer l'essor du pays. Et donc, ce n'est pas un moindre mérite pour cela, mais le deuxième mérite, parce que nous l'avons dit, que c'est le fait de faire participer les citoyens à un processus de prise de décision. Mais il faut qu'en amont, ces décisions-là soient réellement prises.
Merci. Monsieur le ministre Olivier Kamitatou, vous répondrez également à Médard Moulangala qui pense que c'est un programme purement électoraliste, mais en plus on se souvient qu'au mois de mai dernier, vous avez publié un rapport national sur la réalisation des objectifs du millénaire en 2010. D'après ce rapport, la RDC ne pourra pas atteindre ses objectifs à l'échéance de 2015. N'est-il pas finalement contradictoire de parler en même temps des objectifs du millénaire, du DCRP avec les 1 million d'emplois qu'on voudrait créer d'ici 2015?
Non, précisément, ce DCRP2 est en lien sur le même horizon temporel que les OMD. Les OMD, c'est 8 objectifs bien précis. Le premier d'entre eux, c'est réduire la pauvreté.
Et qu'on retrouve dans le DCRP.
Et on le retrouve dans le DCRP, puisque c'est ça, c'est cette ligne d'horizon. C'est un des grands traits de ce DCRP. Ce que nous devons dire, le DCRP est un véritable programme de gouvernement pour les 5 prochaines années. Et ce n'est pas un programme bricolé à la dernière minute pour le présenter lors d'une campagne, ni un testament. Bien au contraire, c'est un document qui a subi de profondes modifications, dont l'élaboration a été laborieuse avec de nombreux groupes thématiques qui se sont réunis avec les partenaires, avec le secteur privé, avec la société civile. Monsieur Tounza vient de le rappeler. C'est un document qui a subi véritablement une transformation par rapport au premier DCRP. Et pourquoi c'est un programme de gouvernement? Parce qu'il ne s'arrête pas simplement aux secteurs traditionnels de la pauvreté qui sont l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement rural et les routes. Il va maintenant toucher les secteurs prioritaires si nous voulons développer le pays. Il nous faut un programme en termes d'énergie, de grandes infrastructures. Il nous faut un programme en termes d'industrialisation. C'est un véritable document qui répond aux défis de la nation. Et le plus grand défi de la nation, c'est sa démographie. Nous sommes aujourd'hui à célébrer le 7 milliardième terrien sur notre planète. Il ne faut pas oublier qu'une personne, un terrien sur 100, vit en République démocratique du Congo. 1% de la population, eh bien, nous sommes là, dans notre pays, et ça fait partie de ces grands défis que rencontre le DCRP. Alors, il est clair que je ne veux pas entrer dans un débat manichéen. Nous ne sommes pas ici à vouloir nous crêper le chignon. mais il y a une part de responsabilité de toutes les institutions, et n'en déplaise à ceux qui disent « c'est un régime qui a totalement échoué, nous allons le remplacer », c'est un programme. Et face à un programme, on présente un autre programme avec un réalisme, avec des chiffres, avec une connaissance du terrain. Et j'attends que monsieur le député Moulangala nous dise « voilà mon programme », alors que celui-ci, alors que ce programme a réellement été travaillé dans un réalisme, une trajectoire réaliste de porter la croissance à 7% pendant les 5 prochaines années, en cohérence avec les exigences notamment de Bretton Woods, du FMI, de la Banque mondiale. Ce programme a également été mis en œuvre pour que nous puissions créer ces emplois, notamment 780 000 emplois dans le secteur public sur les 5 prochaines années, chercher ces emplois sur les OMD, parce que nous savons que ces OMD, c'est d'abord l'éducation et la santé en matière d'éducation primaire, secondaire, en matière d'éducation et de santé sur les paramédicaux. Eh bien, nous avons travaillé de sorte que nous puissions mettre en œuvre une véritable vision qui nous permet de sortir largement des espaces de pauvreté, puisque 10 points peuvent être gagnés au cours des 5 prochaines années.
Monsieur le ministre, le DCRP2 est quand même très ambitieux, hein, créer 1 million d'emplois décents d'ici 2015 à raison. Concrètement, les auditeurs qui nous suivent aimeraient comprendre comment cela va-t-il se passer, concrètement.
Eh bien, vous le savez qu'il y a à la fois les nouveaux emplois qu'il faut créer. Et ces nouveaux emplois, nous voulons les créer une partie dans le secteur public. Ça veut dire qu'on veut déverrouiller le secteur public, la réforme sur l'administration publique, la réforme sur la décentralisation, les réformes sur le renforcement des capacités. Nous devons aller beaucoup plus loin. Mais là n'est pas la recette, parce que c'est 780 000 emplois sur 5 ans dans les secteurs des OMD. Ça veut dire que nous allons maintenant vers des OMD accélérés. Ce sont de nouvelles initiatives avec les partenaires. Mais nous voulons chercher l'emploi dans le secteur privé. Ça veut dire que nous allons intensifier nos efforts pour améliorer le climat des affaires et des investissements. Nous avons décidé d'aller très rapidement déposer les instruments de l'OADA, notamment au niveau du siège de l'OADA, pour que nous puissions effectivement profiter des actes uniformes, sécuriser le secteur privé. Si je parlais de quelques projets de partenariat public-privé, de mise en concession, ça veut dire que au niveau des lois et des règlements, nous continuons sur nos feuilles de route pour devenir réellement et rester un pays réformateur. Ça veut dire que nous voulons effectivement largement augmenter le taux d'investissement sur PIB. Il doit atteindre près de 30%. Nous sommes à 20%, un peu moins de 20%. Nous sommes à 19% du PIB en termes d'investissement direct. Nous devons passer à près de 30%. L'effort sera placé sur à la fois les grandes infrastructures qui permettent d'investir, mais à la fois sur le climat des affaires et des investissements qui reste une des très grandes priorités. Et nous avons défini dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire, nous allons diversifier l'économie de sorte que les emplois, nous ne les cherchons pas dans les mines, nous devons chercher également ces emplois dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans l'industrie manufacturière. Nous devons être beaucoup plus performants pour produire congolais au cours des 5 prochaines années.
Produire congolais au cours des 5 prochaines années, honorable Moulangala, êtes-vous rassuré?
Non, je reste sur ma soif. Le problème de fond qui est posé est lequel depuis plusieurs années. Les programmes sont bien pensés, ils sont écrits, ils sont documentés, ils sont négociés. Bref, toute la littérature est présente. Ma préoccupation est laquelle? D'abord, un, la gouvernance. S'il n'y a pas changement de gouvernance dans le pays, je ne vois pas ce qui va permettre d'atteindre tout ce qui a été dépeint comme objectif ici. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je dois le dire, après 10 ans de gestion du pays, je ne vois pas par quel miracle aujourd'hui on va se retrouver avec une impulsion au sommet de l'État qui peut contribuer à une meilleure gouvernance. Je ne vois pas, je peux me tromper. Mais après 10 ans, quand même, il y a des tendances, il y a des habitudes, il y a des faits qui sont posés qui nous amènent à nous interroger sur la volonté, voire la capacité même de faire changer les choses. Premier point. Deuxième point, celui de l'appropriation sur le plan politique. Écoutez, nous avons différentes institutions, nous sommes d'accord. Mais le pouvoir politique est tenu par un seul groupe, de la base au sommet et du sommet à la base. La responsabilité politique d'impulser les choses, aujourd'hui, appartient à ce groupe-là, qui a tous les moyens en termes de majorité dans les assemblées pour faire bouger les choses. Alors, quand les choses ne bougent pas, quand ça ne marche pas, monsieur le journaliste, il faut regarder ailleurs, il faut regarder cette majorité et poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne parvient pas à impulser les choses dans le droit chemin. Troisième élément, c'est l'élément que je voulais peut-être aussi mentionner, c'est le fait que le DSRP, comme beaucoup de projets dans notre pays, repose sur la contribution des partenaires au développement notamment. Mais lorsque l'on voit année après année un taux d'exécution très faible, une capacité absorptive qui ne s'améliore pas assez vite, posez la question de savoir, mais s'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut faire évoluer les choses ? Bon, le problème est lequel pour moi aujourd'hui ? Il y a un problème qui est double. Nous avons bien sûr fait un projet qui est crédible, qui est valable, qui est beau à lire, qui est satisfaisant. Mais il y a, il faut le dire, sans se gêner, il y a, sur le plan politique, une question qu'on doit se poser. Y a-t-il la volonté de changer les choses ? Et s'il y a volonté, y a-t-il l'organisation pour changer les choses ? Et s'il y a ça, y a-t-il un mécanisme qui est mis en place pour faire le travail ? Moi, je m'interroge, et je dois vous dire, comme beaucoup de Congolais aujourd'hui, je ne crois pas aujourd'hui que l'on peut penser que ce même système peut changer dans ce pays durablement les choses. Il faut pour moi aujourd'hui une autre approche. Parce que jusqu'à présent, il faut le dire clairement, tous les moyens sont là, le résultat ne suit pas assez vite. Pourquoi ? C'est ça la vraie question.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kalima Omanyema pour vous, honorable Mulangala.
Augustin Mwango de Kalima Omanyema, ce document est une bonne chose pour la réduction de la pauvreté, mais je ne pense pas que ce soit des bons rapports, résolutions, documents ou stratégies pour combattre la pauvreté qui font défaut dans notre pays. C'est plutôt la volonté politique de nos dirigeants. Ce document est un autre chapelet des bonnes intentions à la veille des élections.
Réaction honorable, je vous ai vu très satisfait.
J'ai constaté que notre frère à Kalima a le même sentiment que moi. C'est-à-dire que ce pays a tout ce qu'il faut pour évoluer, pour changer. Il y a des cadres très compétents, très valables. Il y a tout ce qu'il y a comme texte, comme document. Aujourd'hui, la véritable question, c'est celle-là. C'est la volonté de changer. Et maintenant, il faut même aller plus loin. Pourquoi on ne veut pas changer ? Ce n'est pas le lieu du débat aujourd'hui, mais il faut se poser la question. Pourquoi on ne peut pas changer ? Pourquoi ? Or que tous les moyens sont disponibles pour le changement, on ne change pas. Dites-moi pourquoi. On n'y répondra pas aujourd'hui, ce n'est pas le lieu du débat, mais c'est une question fondamentale. On n'aime pas ce pays ou quoi ? Non, on doit se poser la question réelle de savoir pourquoi ça ne marche pas. Monsieur de Kalima l'a dit clairement, il y a une difficulté qui est là et qu'on ne peut plus se cacher aujourd'hui.
Georges Tchouzamata, l'honorable Mulangala, dit que ce DSRP compte sur la contribution des partenaires, mais on sait par exemple qu'aujourd'hui l'Europe est en crise. Comment ce programme si ambitieux pourrait-il se réaliser ?
Je crois que pour nous, société civile, nous ne pouvons être rassurés que si nous sommes en mesure de disposer de nos propres moyens pour nous développer.
Est-ce possible ?
Mais absolument, c'est important. Je crois que tout ce que nous demandons, la pression que nous faisons, les dialogues que nous faisons avec les partenaires, les gouvernements, c'est de lui dire, c'est l'encourager à développer les mécanismes, de mobiliser davantage des ressources intérieures pour pouvoir développer les pays. Parce que aujourd'hui, nous avons eu un débat récemment avec des collègues au niveau de la société civile, nous sommes dit vraiment, il faut mettre un bémol sur les ressources extérieures. Parce que ces gens-là sont en crise aujourd'hui, l'Europe ne sait plus à quel sein se vouer, ou c'est à la Chine qu'il faut se vouer, à la Grèce ou je ne sais pas à qui. Donc, cette situation appelle réellement à un examen approfondi sur le rôle de l'État pour pouvoir rendre les services qu'il faut à sa population. Donc nous pensons que l'État, monsieur le ministre a décliné un certain nombre de priorités ici dans le DSRP, mais nous nous sommes dit, au niveau de la société civile, nous pensons que la priorité des priorités, c'est le changement des mentalités. Si on ne change pas de mentalité, que ce soit l'opposition actuelle, ou l'opposition future, ou à venir, je ne sais pas, si on ne change pas de mentalité, ce sera déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Jean et vice-versa. Donc rien ne changera. Donc la véritable priorité pour nous, c'est le changement de mentalité pour qu'effectivement les Congolais et la Congolaise soient au centre des préoccupations des dirigeants. Tant que ce sera toujours, on dit on va compter sur les ressources extérieures, eh bien les ressources extérieures vont venir avec un certain nombre de conditions. Ce n'est jamais gratuit, il n'y a jamais rien pour rien. Ce sont les intérêts qui dirigent le monde. Et donc, la meilleure façon de faire peser aussi nos intérêts dans la balance de la mondialisation, c'est de compter d'abord sur nos propres moyens.
Prenons cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous, Georges Chonzamata.
Pierre-François Ngando, de Mbandaka à l'Équateur. Le moment est venu afin que nous prenions la destinée de notre vie en main. Inutile de compter sur nos politiciens car ils ne tiennent pas compte de la misère du peuple et visent seulement le pouvoir. D'ailleurs, le DCRP ne date pas d'aujourd'hui et sur le terrain, il n'y a presque rien. À quoi sert le DCRP 2? Utilisons notre temps au mieux et cessons d'être des candidats éternels à la recherche de l'emploi et créons nous-mêmes des emplois pour lutter contre le chômage et réduire en sa paix la pauvreté avant qu'il soit trop tard.
Réaction de Georges Touzamata, je vous ai vu sourire.
Non, je partage le point de vue dans le sens que, effectivement, nous devons nous prendre en charge, hein, mais amener nos dirigeants à considérer ce que la population attend. Parce que un des principes de la déclaration de Paris, c'est l'appropriation. L'appropriation est basée sur les besoins des populations. Il faut donc les desserper. Nous avons toujours fait. Le gouvernement c'est pas une flatterie à l'égard de monsieur le ministre présent ici, nous avons énormément été invités à participer à tous les niveaux, au niveau local, provincial et central, au dialogue sur les politiques. Mais c'est que nous insistons pour que ce ne soit pas des exercices qui restent théoriques. Quand nous nous rencontrons, nous disons des choses, nous sommes très contents, nous, particulièrement la société civile, que dans les DCRP, on retrouve un certain nombre d'aspects que nous avons proposés dans les dialogues avec le gouvernement. Mais nous tenons absolument pour que ça ne soit toujours pas un exercice qui reste ou des documents qu'on remplit pour pouvoir plaire aux partenaires, comme le dit la rue, mais pour que ce soit réellement un document de politique, il faut qu'il soit traduit dans les budgets de l'État. Nous savons que la loi financière a été réformée en fonction de cela pour qu'elle tienne compte de budget programme, mais nous voulons aussi qu'au niveau du gouvernement, parce que nous avons toujours senti un double discours au niveau du gouvernement, c'est-à-dire quoi? Le ministère du Plan élabore des documents, est-ce que c'est la même conception des choses au niveau du ministère du Budget? Est-ce que c'est la même chose au niveau du ministère des Finances? Est-ce que c'est la même chose au niveau du ministère de l'Économie?
Merci.
Donc, nous avons besoin de cette cohésion gouvernementale également à ces niveaux pour que les politiques soient mises en œuvre.
Monsieur le ministre Olivier Kamitatou, le DCRP doit être traduit dans le budget pour qu'il soit plus concret. N'y a-t-il pas un problème de volonté politique ou de cohésion, de cohérence, comme le disent l'honorable Moulangala et Georges Chonzamata?
Élaborer un DCRP 2, ça va d'abord dire un diagnostic. Quand on évoque la gouvernance nous préoccupe. Le DCRP 2 met la gouvernance comme tout premier pilier. Il ne met plus la consolidation de la paix qui était le premier pilier du DCRP 1. La société congolaise a évolué, les mentalités doivent changer et je suis tout à fait d'accord avec Georges Chunza. La gouvernance est une des grandes priorités, la requalification de la gouvernance est inscrite noir sur blanc dans ce DCRP 2. C'est effectivement la création d'emplois qui n'apparaissait pas dans le DCRP 1. C'est aussi une nouveauté. C'est le renforcement du capital humain qui n'apparaissait pas dans le DCRP 1. Nous étions dans l'éducation de base, comment mettre nos enfants à l'école. Maintenant nous sommes comment les former pour qu'ils aient un emploi et qu'ils entrent dans la vie active. L'environnement n'était pas dans le DCRP 1 parce que nous avons compris que là, nous jouions réellement un rôle dans la gouvernance mondiale. Il est clair que ce DCRP 2 va exiger des gros moyens. Nous ne les attendons pas de l'aide publique au développement. Nous les attendons effectivement d'abord de nos ressources propres. Il faut qu'il y ait du civisme, qu'on commence à payer ses impôts. On ne peut pas tout attendre de l'État congolais si on n'est pas prêt à faire confiance dans l'État congolais, dans la manière de délivrer, de prester des services. Nous voulons mobiliser beaucoup plus d'épargne intérieure. Nous n'allons pas chaque fois aller chercher l'épargne étrangère.
Vous avez la parole, monsieur le ministre, mais quelles sont les garanties que tout ce que vous dites ne va pas rester théorique, comme on l'a connu avec beaucoup d'autres rapports et d'autres études?
Parce que la société congolaise a évolué, parce que nous ne sommes plus dans les urgences, parce qu'on ne parle plus consolidation de la paix à chaque instant, parce que cette fois-ci, nous voulons un véritable développement basé d'abord sur nos propres capacités. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, quand on parlait de l'aide chinoise, combien de temps avons-nous mis pour avoir l'aide chinoise parce que nous étions sous la pression des Occidentaux qui, eux, aujourd'hui, vont chercher les milliards chinois alors que le président de la République a été le premier à dire non, je veux désendetter le pays, mais je veux également l'aide chinoise qui viendra également dans le DCRP2 parce que également dans ce DCRP2, le partenariat public-privé viendra pour faire Inga, le port, effectivement, en eau profonde de Banana, réhabiliter nos chemins de fer et nos routes. C'est le secteur privé qui sera le moteur de l'économie et de la croissance. La République démocratique du Congo va continuer à évoluer sur cette trajectoire.
Merci, monsieur le ministre. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Il va déjà falloir conclure. Honorable Médard Moulangala, la RDC mettra, le DCRP2 met l'accent sur les ressources propres. Qu'est-ce que vous en dites en guise de conclusion?
Ma conclusion est très simple. Ce ne sont pas les études, ce ne sont pas les cadres, ce ne sont pas les ressources qui manquent à ce pays. La vraie question qui est posée est celle du leadership du pays. La question, maintenant, il faut la poser crûment. Avons-nous un leadership capable d'assumer tous les enjeux que notre pays a devant lui? Moi, je dois dire que la réponse pour moi, elle est négative, parce que après tant de moments passés à la tête du pays, à la gestion des affaires publiques, on ne sent pas, on ne voit pas venir ce changement comme on le souhaite. Donc, comme l'a dit notre frère Nomandaka, le moment est venu de sanctionner politiquement.
Ne doit-on pas aller au-delà de tous ces clivages majorité-opposition pour mettre le bien-être du peuple congolais à l'avant-plan?
On dit la même chose. Je dis qu'il faut un leadership qui ait cela à cœur et qui ait la capacité de le faire et qui ait la volonté de le faire. C'est ça ma seule préoccupation. Il faut dire aujourd'hui à l'analyse froidement, sur base des données chiffrées et objectives, le leadership actuel n'y est pas et que pour moi, il faut donner la chance à un nouveau leadership de changer le pays pour lui donner une nouvelle impulsion.
Georges Tounzamata, un mot en guise de conclusion.
Bon, nous sommes conscients que les défis sont énormes pour le pays, mais ces défis, c'est d'abord la Congolaise et les Congolais qui doivent être au centre des préoccupations des dirigeants. Tant qu'il n'y aura pas de changement de mentalité à la fois des citoyennes et citoyens congolais et même des dirigeants congolais, rien ne sera changé ici. Donc, nous pensons que c'est la préoccupation la plus importante. C'est pour cela que tout document des politiques, quel qu'il soit, eh bien, ces changements de mentalité, c'est en même temps le fait qu'ils soient mis en œuvre, effectivement, avec les moyens dont dispose l'État, les contrôles, la lutte contre la corruption, et tout ça doit être mis en œuvre pour effectivement soit une gouvernance des développements, une gouvernance des changements.
Monsieur le ministre Olivier Kamitatou, un mois, tous les Congolais qui attendent quelque chose de l'exécution du DCRP2 en guise de conclusion, brièvement.
En guise de conclusion, c'est que ce DCRP2, c'est un vrai programme de gouvernement. Il n'y a pas de vide programmatique dans notre pays. Nous savons où nous voulons aller, nous connaissons la trajectoire et nous savons que cette vision sera assortie des politiques publiques qui seront efficaces pour le peuple congolais.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé. Pour ce soir, merci également à vous de nous avoir suivis, ainsi qu'à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Guy Maté, Kéline Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, Willem Lungamba et Patrick Kiasongo a été à la technique. Au revoir, restez branchés sur Radio Capi.